Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
La fin du siècle américain.
Les États-Unis se voient avec une sorte de responsabilité globale, ne voient pas de contrepoids, et considèrent que dans certains cas, ils peuvent négocier avec les autres, mais dans d'autres cas, ils doivent dicter la ligne.
On se souvient que dans les années 1990, Hubert Védrine, qu'on vient d'entendre, parlait de l'hyperpuissance américaine. Cette époque s'enfonce déjà dans les lointains. Et encore davantage le moment d'après 1945, le temps qui fut celui de la puissance la plus forte, sans doute. Un élixir de croissance et d'abondance dopait alors les Américains qui se proposaient de le faire partager au vieux monde, puis au tiers-monde. America great again. La campagne de Donald Trump a cherché à faire vibrer ses souvenirs, mais sur un mode sombre, en aiguillonnant les angoisses de ceux des Américains qui ont perdu des points avec la mondialisation. Dès lors que le projet d'enrichissement personnel de beaucoup de citoyens devient incertain, le coût des responsabilités internationales que s'est attribué le pays s'en trouve de plus en plus contesté. Pourquoi ces engagements et ces dépenses, alors que le géant économique que nous sommes encore est dangereusement devenu débiteur, qu'il est de plus en plus concurrencé par les émergents et que sa force militaire semble s'enliser chaque fois qu'elle intervient ? America great again. Le slogan de Trump a mobilisé, mais il ne faut pas l'entendre au sens que pourrait lui donner toute une tradition universaliste des États-Unis, celle qui assurait l'exceptionnalité du pays lui donne des responsabilités. America first pour Trump, c'est panique à bord, les boucs émissaires par-dessus bord et les États-Unis d'abord.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Pierre Mélandry, bonjour.
Bonjour.
Grand historien des États-Unis, des relations internationales. Après votre histoire des États-Unis, c'est en deux volumes dans la collection Poche Tempus chez Perrin. Chez Perrin, toujours, le siècle américain, une histoire. Les Américains ont moins l'impression qu'autrefois d'être spéciaux parce qu'ils sont Américains.
Oui, c'est vrai. Longtemps, les Américains ont eu l'impression de constituer un peuple en quelque sorte à part et d'avoir un destin. L'élection d'hier montre que ce sentiment est beaucoup moins partagé qu'il a pu l'être à une époque, parce qu'au fond, que représente Trump ? Il représente d'une certaine façon le rejet de cette vision d'une Amérique exceptionnelle, une Amérique qui prétendait refaçonner le monde selon ses valeurs et ses intérêts. Lui explique au contraire que l'Amérique a un tas de problèmes, qu'elle doit se concentrer sur ces derniers, qu'elle n'a pas à sermonner d'autres pays. Bref, c'est une Amérique du repli, mais qui doute surtout de son destin qu'il représentait face à Madame Clinton, qui, elle, tout au contraire, il faut le dire, représentait la foi dans une Amérique puissance exceptionnelle qui était la nation indispensable, appelée à exercer le leadership mondial.
Cette exceptionnalité, Pierre Mélandry, elle remonte à l'époque d'avant l'indépendance elle-même.
Ah oui, je crois qu'on peut dire qu'elle remonte à la création des colonies, en tout cas celle du Massachusetts. John Winthrop explique qu'ils sont en train de bâtir une cité sur la colline qui servira de modèle au reste de l'humanité. On parle de Nouvelle Jérusalem et puis cette conviction va se laïciser en quelque sorte avec les pères fondateurs. L'Amérique se crée comme une terre des libertés, une république qui se veut là aussi un modèle pour le reste de l'humanité. Mais il faut bien voir que ça se veut un modèle, c'est-à-dire que c'est par son exemple qu'elle doit convertir le reste du monde et non par ses armes ou son action.
Néanmoins, il y a une autre tradition, toute faite de défiance et de prudence, qui explique qu'il faut se défier de se mêler des affaires des autres.
Ah oui, tout au long du 19e, l'Amérique est isolationniste, justement. Elle profite d'une situation exceptionnelle. La Grande-Bretagne, au fond, fait régner la balance of power sur le continent et donc prévient ce qui est toujours actuellement l'obsession des Américains, c'est l'apparition d'une puissance hégémonique hostile sur le continent eurasiatique et par ailleurs elle assure la liberté des mers. Donc finalement à partir de la deuxième guerre, en tout cas avec l'Angleterre, c'est-à-dire 1815, l'Amérique va s'en remettre pour ses intérêts extérieurs à la politique britannique et se consacrer sur le développement intérieur. On aura même John Quincy Adams, qui expliquera que l'Amérique, si elle doit montrer sa sympathie au mouvement se battant pour la liberté et pour la démocratie, ne doit surtout pas aller hors de ses frontières en quête de monstres à détruire.
En même temps, vous parlez d'un siècle américain, et ce siècle américain, on peut peut-être le faire commencer à la guerre de 14, d'une certaine manière pour... L'universalisme américain, c'est une opportunité, la Grande Guerre. En même temps, c'est une chance qui n'a pas été exploitée jusqu'au bout.
Oui, ça apparaît à Wilson, en tout cas, comme une nécessité. Au fond, la Première Guerre mondiale montre que reposer sur l'Angleterre ne suffit plus. La montée en puissance de l'Allemagne, en quelque sorte, obère l'option britannique. Et du coup... Wilson se persuade que le seul moyen d'assurer son épanouissement à la démocratie américaine, c'est de reconstruire le monde à l'image des États-Unis. Ça va être le projet de la Ligue des Nations. Il intitule d'ailleurs l'Amérique « la lumière du monde ». Mais là encore, le réflexe que vous évoquez va jouer. Vous allez avoir une réaction hostile de la part de républicains qui redoutent de voir dans le système de sécurité collective que Wilson cherche à faire ratifier une menace pour ce qui est le bien le plus précieux pour un pays qui se veut un exemple, c'est-à-dire la souveraineté. On va être contraint par des influences étrangères, en quelque sorte contaminées. Et d'où le réflexe nationaliste qui l'emporte dans les années 20 et dont l'échec dans les années 30 finalement conduira à un retour du wilsonisme lors de la présidence de Franklin Delano Roosevelt.
Alors, la Deuxième Guerre mondiale, elle, donne l'occasion de remodeler le monde, ou du moins une partie du monde, à l'image de l'Amérique. C'est, selon vous, le moment de la plus grande puissance américaine, même s'il y a l'Union soviétique, le PNB des oui. États-Unis, c'est 3 fois celui de l'URSS, 5 fois celui de la Grande-Bretagne, et elle peut donc, cette puissance américaine, se montrer généreuse. Plan Marshall, tel que vu par un chansonnier de Montmartre, Jean Rigaud, puis par les actualités cinématographiques.
Excuse me, but I don't speak English very well, but I'll try to explain you what is a Plan Marshall, see by a French boy. Do you know what is a Plan Marshall? I don't. But I go to see some John's friends about Marshall Plan and I said, alors. Et là, on m'a dit, Marshall n'est pas au courant. Mais ça fait rien, le plan est là. All John are on the big ship and boats for Europa. Just like that. Et tout s'en va en Europe.
Au Havre, le cargo Cap Race a transporté cette première tranche de 209 tracteurs destinés aux petites exploitations agricoles. 15 000 engins de ce type doivent nous parvenir dans le courant de l'année. Souhaitons, avec le délégué du plan Marshall, qu'ils aident à tracer le sillon de la prospérité française.
Acte de générosité et intérêt éclairé, le plan Marshall.
Ah oui, là c'est un exemple assez extraordinaire d'intérêt direct national américain qui se transforme en un intérêt, sinon international, du moins européen. L'Europe est à l'époque dévastée par la guerre, elle a énormément de mal à se reconstruire. Les Américains redoutent des crises sociales sévères qui pourraient se transformer en crises politiques, alors même que dans certains pays comme la France et l'Italie, les partis communistes sont puissants et que l'on est déjà en période de tension avec l'Union soviétique. L'idée est de voler au secours de ces économies européennes et en profiter pour projeter le modèle américain. C'est-à-dire que les États-Unis sont au sommet de leur puissance. Nous avons la puissance économique, la puissance militaire, mais aussi la puissance spirituelle, si je puis dire. Leur modèle de société fait quand même l'envie et l'admiration du monde entier.
Alors là, vous employez le vocabulaire de la magie plus que de la spiritualité. Élixir de la croissance, magie de la technologie, miracle de la productivité, cocktail à base de puissance
oui.
d'abondance.
Non, vous avez raison.
Ce qu'ils
vont essayer de faire, c'est de substituer aux problèmes politiques classiques des problèmes de production. Élever en quelque sorte une idéologie qui est celle du consumérisme au-dessus de toutes les idéologies et substituer aux conflits de classe, qui sont quand même forts à l'époque en Europe, un consensus sur la croissance. Mais pour ce faire, effectivement, il faut qu'ils interviennent à la fois matériellement et intellectuellement en essayant de projeter leur modèle d'organisation industrielle sur une Europe qui, évidemment, ne va pas se transformer en une nouvelle Amérique, mais qui va quand même emprunter beaucoup de ses traits.
Co-prospérité et construction, dites-vous, d'une communauté imaginaire organisée autour de produits. On pourrait beaucoup parler du Coca-Cola. Oui. Il y a à l'époque aussi, en même temps que le plan Marshall, le développement de l'Alliance Nord-Atlantique qui est destinée à faire protéger par les États-Unis l'Europe occidentale. 13 bases en France, et je vais prendre l'exemple de celle de Châteauroux. Alors les enfants peuvent jouer aux cow-boys et aux indiens, il y a des Buick et des Chevrolet dans les rues, jusque dans les bordels de Châteauroux, et on boit autre chose que du Coca-Cola. Si on en croit ce film avec Guy Marchand.
Qui c'est les Américains? C'est les Anglais, c'est des Belges, des Français, des Polonais.
Ouais, les vrais Américains sont les Indiens. Ouh, ouh.
Oui. C'est Geronimo. Hein? Ça, c'est un vrai Américain. D'ailleurs, je sais même pas si c'était pas un Italien. Geronimo. Et si j'avais pas eu les nègres, eh ben, ils danseraient encore la polka. Les nègres. Charlie Parker? Tu connais Charlie Parker?
Ouais.
Mr. Young, tu connais Mr. Young?
Non.
Tu connais pas Mr. Young?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
C'était le siècle américain à son zénith. Nous sommes avec Pierre Mélandry qui publie parmi les meilleurs livres qui soient sur l'Amérique, c'est chez Perrin. Et là, c'était un film pas assez connu, Châteauroux District.
Oui, mais en tout cas, ça montre bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, l'endiguement, puisque c'était le terme qui était employé, de l'URSS, devait se faire par des moyens économiques, le plan Marshall. Et puis, on s'est aperçu qu'on ne peut pas reconstruire un pays s'il vit dans une relative insécurité. D'où cette demande, d'ailleurs, des Européens, d'une protection américaine qui se transforme en alliance atlantique. Mais les bases américaines, effectivement, vont être une vitrine de la société américaine et elles seront conçues pour impressionner les Européens, pour les séduire. Et puis, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'effectivement, tous les grands atouts culturels de la culture populaire américaine sont là, c'est-à-dire le western à travers l'évocation des Indiens. Signalons même que Hollywood se présente à l'époque comme la meilleure et la plus séduisante vitrine des États-Unis, mais aussi le jazz dont Eisenhower disait que c'était le meilleur ambassadeur de l'Amérique, auquel succédera par la suite tout aussi bien le rock.
À partir de 56, les deux grands d'ailleurs, et pas seulement les États-Unis, se disent la guerre froide sera gagnée si on ne perd pas dans le tiers-monde. Et on va passer de l'enjeu des pays industrialisés qui va demeurer à un autre enjeu, celui des pays à décoloniser ou des pays dans lesquels il faut endiguer l'influence communiste. Pourquoi diable les États-Unis sont-ils allés quand même au Vietnam?
Ils y sont allés parce qu'ils croyaient qu'ils allaient remporter une immense victoire sur le communisme. Ça allait être une sorte de coup d'arrêt définitif, démontrer que l'Amérique avait les solutions aux pays du tiers-monde, que l'URSS, évidemment, ne possédait pas. Ça a été, évidemment, un échec tout à fait cinglant qui a porté un tort énorme à l'image des États-Unis.
Parce qu'ils avaient gagné dans les années après 56, les années de la décolonisation des vieilles puissances européennes, un certain capital de sympathie à cause de l'ambiguïté qu'ils manifestaient. Les Américains ont plutôt soutenu quand même l'indépendance algérienne.
Oui, au moins sous-main. Et puis ensuite, on se rappelle le discours de Kennedy qui lui était public. Non, il y avait cette idée que les États-Unis se devaient de soutenir les indépendances nationales. Bon, il y a eu un moment un petit peu prudence, il fallait qu'elle ne soit pas prématurée, parce que sinon on risquait de retomber la peur d'une mainmise communiste sous une dépendance encore plus grave que la précédente. Mais de façon générale, les Américains ont soutenu les indépendances, ça faisait partie de leur idéologie, le droit des peuples à l'autodétermination, et donc ils ont joué un rôle important, et c'est pourquoi au fond, au Vietnam, ils s'imaginent sans doute que une victoire est à portée.
De même que, au nom de leur idéologie, le président de l'époque, le successeur de Kennedy, Johnson, dit il faut absolument redistribuer, il y a une frontière sociale extrêmement importante à garder, à franchir aussi aux États-Unis, c'est le projet de grande société. Alors Johnson, je ne dis pas qu'il parlait de manière aussi vulgaire que le nouveau président américain, mais enfin il avait son vocabulaire à lui. Alors il disait, je vous cite, si je quitte la grande société, c'est mon projet, c'est la femme que j'aime, pour une aventure à l'autre bout du monde avec cette salope de guerre du Vietnam, je perds tout.
Oui, mais c'est vrai, Johnson avait compris quand même que les États-Unis, avant tout, c'était un modèle intérieur. Au fond, la politique extérieure ne devait servir l'épanouissement de l'expérience nationale. Il ne fallait pas que ce soit le contraire. D'où cet attachement à la grande société. Mais il savait très bien que pour des raisons financières, précisément parce que les limites de ce que les États-Unis pouvaient faire commençaient à apparaître, il serait très difficile de faire les deux. Alors,
Il y avait collision entre les coûts grandissants de la guerre du Vietnam et de la grande société.
Et il a voulu évidemment tricher, c'est-à-dire ne pas dire tout à fait la vérité sur les coûts au Congrès. Puis à un moment, il a été obligé de le dire et de mettre un petit peu la pédale douce sur ses projets intérieurs, d'autant plus que ceci devenait de plus en plus coûteux et commençait à susciter des réactions hostiles.
Résultat, début des années 1970, alors là, le soleil pâlit, il y a des signes, le commerce extérieur devient déficitaire en 1971, et puis, c'est la chute de Saïgon, un véritable traumatisme 75.
La fièvre monte devant l'ambassade américaine où s'entassent des Vietnamiens prêts à tout pour s'embarquer dans les hélicoptères. Pour éviter la honte d'un départ politique à froid, les Américains ont attendu d'avoir les baïonnettes communistes dans le dos. Du coup, la panique est devenue contagieuse, pour beaucoup irraisonnée. Des dizaines, des centaines d'hélicoptères se sont succédés jusqu'au matin sur le toit de l'ambassade et des bâtiments étrangers. Les élus attendaient leur tour de partir, leur mince fortune dans un petit sac vers les bateaux de la 7e flotte, puis vers Guam et les États-Unis pour quel destin ? Les Vietnamiens ont payé jusqu'à 15 000 dollars leur droit de passage. Il y a eu des scènes violentes et terribles aux portes gardées par des marines en armes.
C'est, pour l'Amérique, la fin de la guerre la plus longue, la plus coûteuse et la plus humiliante qu'elle ait jamais connue. Le cauchemar est fini, les Américains sont soulagés, mais ils sont aussi amers.
On voit un échec total. Maintenant, on peut mettre fin à cette aventure. Et maintenant, nous pouvons faire attention aux questions domestiques de grande importance.
Toujours le thème de la collision des questions domestiques, des questions intérieures et du coup des interventions extérieures. Deux idées que vous développez, Pierre Mélandry, quand vous commencez à analyser le début de la fin du siècle américain. Un, le géant est impuissant. Deux, le géant est débiteur. Le géant est impuissant, empêtré dans ses moyens.
Oui, bon, c'est-à-dire que le géant a quand même des moyens importants qui lui permettent d'agir, mais pas de faire vraiment ce qu'il veut. Il trouve très vite ses limites. Il va y avoir le syndrome vietnamien qui donne l'impression que les États-Unis hésitent à s'engager militairement. Il va y avoir quand même le premier choc pétrolier qui montre la perte du contrôle du marché pétrolier qui avait été un des grands atouts des États-Unis. Vous allez y avoir la chute du chat et finalement, vous dites le géant endetté, oui, parce que tous ces échecs vont provoquer un phénomène de rejet. Et c'est là où, pour la première fois, le terme « Let us make America great again » va surgir avec Reagan. Mais comment va faire Reagan pour réconcilier le pays largement échaudé avec son projet impérial? À travers l'endettement, il va user du statut du dollar pour faire en sorte que d'un côté, les dépenses militaires n'aient pas un impact trop dur sur les questions budgétaires, et de l'autre, pour permettre aux Américains, même si leur pouvoir d'achat n'augmente pas, d'emprunter pour permettre à leur niveau de vie d'augmenter. Alors ce que je dirais, c'est qu'au fond, le problème de tout cela, c'est que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont l'empire de la production. Ils peuvent fournir à leurs alliés et partenaires des produits et même leur fournir l'argent pour les acheter, que ce soit à travers des dons ou des prêts. L'Amérique est en train, dans ces années, pour reprendre l'expression d'un excellent historien qui est Charles Mayer, de se transformer en empire de la consommation. C'est-à-dire que, au lieu d'exporter des capitaux, elle va ne cesser d'en importer. Alors ça commence sous les années Reagan et à la fin des années Reagan, on a une situation un peu schizophrénique, si je puis dire, dans la mesure où, sous George Bush, son successeur, il y a la chute de l'Union soviétique, qui est une formidable victoire, qui amène certains, comme Charles Scott Hammer a parlé de moments unipolaires, ou Francis Fukuyama a évoqué la fin de l'histoire, mais qui en même temps n'empêche pas d'autres d'éprouver une grande anxiété devant ce qu'on appelle une prospérité hantée par les déficits du commerce extérieur et du budget. Et finalement, ça va se traduire dans la campagne de 92 par la fameuse formule du sénateur Tsongas. La guerre froide est finie, le Japon et l'Allemagne l'ont gagné. Mais ce qui va se produire, évidemment, c'est que la prospérité revenant durant les années Clinton, durant la deuxième partie des années 90, effectivement, l'Amérique va une dernière fois avoir l'impression que le siècle américain est ressuscité et l'expression d'hyperpuissance est parfaitement justifiée pour ces années qui, en gros, vont de 95-96 à 2001.
Parlons économie, vous avez raison de mettre l'accent, Pierre Mélandry, sur cet aspect. Il reste quand même des positions très fortes de l'économie américaine dans les secteurs clés de demain, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans la santé, soit les 100 plus grandes capitalisations boursières au monde. 54 sont américaines, davantage que dans les années précédentes. Et vous dites, attention, c'est pas nécessairement un signe de si excellente santé que cela.
Non, parce qu'il y a eu un décrochage très fort entre les intérêts des multinationales et l'intérêt national au sens strict. Au fond, les Américains ont développé un impérium, un système impérial pour protéger un emporium qui était un grand marché ouvert.
Mais
l'impérium a déjà coûté cher au pays sous la forme de dépenses militaires, de dépenses d'assistance, etc., etc. Mais l'impérium, d'une certaine façon, s'est retourné contre une partie de la population, car il y a très largement un hiatus entre l'intérêt des dirigeants des multinationales qui planifient leurs opérations à l'échelle mondiale, et puis le sort de l'Américain moyen, des anciennes régions industrielles, qui voient les emplois se dissiper. On a vu un dirigeant d'Apple expliquer qu'il n'y avait pas à se préoccuper des problèmes de l'Amérique, à proprement parler, mais simplement à produire les meilleurs
dividendes.
Produits du monde.
Et les meilleurs dividendes. Un dernier extrait sonore, encore un film, j'espère que vous l'aimerez. Oliver Stone, c'est quelqu'un qui poursuit une œuvre critique depuis le début de ses réalisations sur le rêve américain. Ça, c'est le film Wall Street, où on voit que les multinationales sont aussi sous la pression des exigences de leurs actionnaires et pas seulement sous la pression de la concurrence internationale.
L'Amérique est maintenant devenue une puissance de deuxième ordre. Le déficit commercial et plus encore fiscal a mis notre pays plus bas que terre. À l'époque du libre-marché, quand l'Amérique était la première puissance industrielle du monde, les entrepreneurs devaient rendre compte à leurs actionnaires. Les Carnegie, les Rockefeller, des hommes qui ont bâti ce gigantesque empire industriel, se pliaient à cette règle parce que c'était leur propre fortune qui était en jeu. Aujourd'hui, vos administrateurs ne risquent pas un seul dollar dans la société. Alors j'ai passé les trois derniers mois à chercher ce qu'ils font au juste. Mais hélas, j'ai rien pu trouver. Ce que je sais, en revanche, c'est que cette papeterie a perdu 110 millions de dollars l'année dernière et je parie que la moitié de cette somme énorme est passée dans la paperasserie que s'échangent tous ces messieurs entre eux. La nouvelle loi de l'évolution de nos hommes d'affaires semble être la survie du moins apte. Mais pour moi, soit on travaille bien, soit on est éliminé. Certains m'accusent de voracité. Eh bien, la voracité, mais je dirais plutôt la fin est utile. Oui, la fin de la vie, de l'amour, de l'argent, de la connaissance a marqué chaque pas en avant de l'humanité. Et la fin, notez bien mes paroles, va non seulement sauver Teldar Pepper, mais aussi cette belle société si mal gérée que sont les États-Unis.
La voracité, la défense de la voracité, trop de paperasse, trop de régulation. Et puis alors, qu'est-ce que c'est que ces entreprises? Ça fait partie aussi d'une tradition américaine qui s'allie à certains moments avec le pouvoir d'État pour provoquer de la régulation et mettre fin à des crises sociales très lourdes de conséquences politiques.
Oui, il y a eu une substitution progressive à ce qu'on appelait un stakeholder capitalism, c'est-à-dire un capitalisme qui était enraciné localement et qui se préoccupait de la condition non seulement des actionnaires, mais aussi de ses salariés, voire de la communauté où les usines étaient installées. Substitution à ce capitalisme de ce qu'on appelle un shareholder capitalism, pour lequel le seul critère, c'est évidemment le critère de la rentabilité et de la profitabilité financière. Et je crois que c'est là le problème que l'on rencontre aujourd'hui. Obama l'a souvent évoqué, les gens auparavant se connaissaient, désormais ce n'est plus le cas, il y a rupture entre les intérêts des gens qui, au fond, sont à la tête des entreprises et qui délocalisent allègrement, et puis les intérêts de ceux auxquels ils étaient jusqu'ici associés. Et ceci remonte déjà à plusieurs décennies.
Et c'est pas propre aux États-Unis. Quand vous allez dans une banque maintenant et que vous voulez investir de l'argent, certaines banques vous proposent des questionnaires. Et jamais dans le questionnaire, il n'est question de l'utilité sociale, régionale, de l'investissement auquel vous pourriez participer. Ben non, c'est une question qui ne se pose plus.
Oui, enfin, c'est celle, au fond, qui s'est un petit peu posée lors de cette élection, puisque l'un des thèmes favoris de Trump, dans lequel d'ailleurs il a entraîné Madame Clinton, ça a été la remise en cause des accords commerciaux de libre-échange présentés comme potentiellement néfastes pour un grand nombre de ses concitoyens. À quoi il faut quand même ajouter qu'un autre problème est la numérisation croissante des activités, le problème de l'emploi, parce que l'industrie continue à produire à peu près autant aux États-Unis, mais avec infiniment moins de salariés.
Et beaucoup d'entreprises choisissent, vous prenez l'exemple de Walmart, de verser des salaires extrêmement bas, ce qui ne permet d'acheter que des produits alimentaires extrêmement médiocres des magasins en question. C'est plus du tout la politique d'autrefois qui consistait à donner des salaires assez élevés pour acheter des produits de bonne qualité.
Oui, oui. Même si Walmart a un petit peu évolué très récemment, on est au contraire de la politique fordiste où l'idée était prix bas, salaires élevés. Désormais, au fond, au lieu de chercher à vendre, n'est-ce pas, aux salariés du pays, on cherche surtout à vendre aux classes montantes du monde émergent.
Enfin, vous concluez, presque mélancolique, Pierre Mélandry, c'est la dernière phrase de votre siècle américain chez Perrin. L'Amérique se sera assurée une place à part dans l'histoire de l'humanité, mais nous sommes peut-être le dernier siècle auquel on puisse associer le nom d'une nation.
Oui, parce que actuellement, il n'y a plus de puissance aussi dominante et prépondérante qu'ont pu être les États-Unis. Et on en est un peu revenu, d'une certaine façon, au jugement sans doute prématuré, mais actuellement justifié, de Premier ministre japonais qui expliquait à Georges Pompidou déjà en 73, les États-Unis ne sont plus le soleil entouré des planètes, les États-Unis sont une planète parmi les autres, j'ajouterai quand même la première et la plus grosse des planètes.
Merci à vous, Pierre Mélandry.
Merci.
L'émission a été préparée par l'équipe de La Marge de l'Histoire, Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Ludovic Asselot, à la réalisation Valérie Aistaray.